Les Trois Exils d'Algérie, c'est une pièce du collectif Manifeste Rien qui va se jouer à Marseille au Théâtre de l'Œuvre la semaine prochaine, je le disais, le 5, 6 et 7 mai 2022. Et Virginie Aymon, comédienne dans ce spectacle et au sein du collectif pour de nombreuses autres créations, est présente dans le studio marseillais de Fréquence Mistral. Alors, est-ce que vous pourriez résumer cette pièce et de quel exil on parle, tant évoqué dans le livre de Benjamin Stora que dans votre adaptation théâtrale?
Oui, bien sûr. Alors, les trois exils, c'est les trois exils juifs d'Algérie. Hein. Le premier, en fait, ça va être en 1871 avec le décret Crémieux, l'instauration du décret Crémieux, qui est un décret, en fait, qui va naturaliser les juifs d'Algérie. C'est-à-dire que les juifs d'Algérie vont tout à coup devenir français. Français avec tous les droits des Français, donc le droit de vote, tout ça. Donc là, c'est déjà le premier exil parce que ça va être une rupture avec le monde berbère et le monde musulman. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les Juifs en Algérie sont quand même minoritaires et ils vivent de manière complètement liée avec les musulmans. C'est des berbères, c'est-à-dire les premiers habitants de la terre qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie, un peu comme les Indiens d'Amérique, c'est les tout premiers habitants. Donc il y a ceux qui pratiquent le judaïsme et ceux qui pratiquent l'islam, mais ils mêlent leurs traditions, voilà. Donc ce décret Crémieux va finalement séparer la population juive de la population musulmane du jour au lendemain. Donc c'est un premier exil. Et le deuxième exil va ensuite être dès le début de la Seconde Guerre mondiale, donc dès 1938. C'est la Seconde Guerre mondiale qui arrive, donc les Allemands, tout ce qu'on connaît du gouvernement de Vichy. Et avec ce gouvernement de Vichy, en fait, les Juifs d'Algérie, l'extrême droite française, en fait, va demander l'abrogation du décret Crémieux, c'est-à-dire qu'on annule ce décret Crémieux. Donc, ils perdent leur citoyenneté française. Et ça, c'est le deuxième exil, la perte de la citoyenneté française. Donc, ils sont dans une espèce de no man's land, là, du coup. Alors, ce décret Crémieux, finalement, se remet en place après de longues... ça a été assez long à revenir, c'est-à-dire en 1942, lors du débarquement américain pour libérer l'Algérie française des Allemands. Hein. Mais ça a été quand même assez long à revenir. Et le troisième exil... là, ça va être un exil hors de la terre d'Algérie, c'est-à-dire en 1962, où là, c'est la veille en fait, de la proclamation de l'indépendance algérienne, hein, dont c'est l'anniversaire aussi cette année, l'indépendance algérienne, où finalement les Juifs ont récupéré, en fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, leur citoyenneté française. Et là, ils doivent faire un choix. Ils doivent faire le choix soit de revenir complètement avec les Algériens et de se battre pour l'émancipation algérienne, mais au sein d'une indépendance, ou de garder la citoyenneté française. Et finalement, les Juifs d'Algérie, contrairement d'ailleurs aux idées que pouvaient avoir les Juifs de France, les Juifs d'Algérie, eux, vont vouloir maintenir leur citoyenneté française parce que finalement, l'assimilation à la France va devenir, à leurs yeux, leur bien le plus précieux. Ils l'ont eu, ils l'ont perdu, ils l'ont réu, et ils se sentent vraiment appartenir à la nation française, alors que l'Algérie est une nation naissante, mais elle n'existe pas encore. Ça va se faire, là, dans les jours qui arrivent, en 62.
Alors, 62, c'est la fin de la guerre qu'on apprend souvent comme étant entre les années 54 et 62, 62 les accords d'Évian, etc. Et effectivement, en 2022, on fête cette commémoration-là.
Et 54, c'est la création du FLN et c'est le début de la guerre d'Algérie.
Mais on pourrait aussi se dire que la guerre a commencé avant et vous évoquiez, micro coupé, cette date du 8 mai 1945, les massacres de Sétif.
Et de Guelma.
et de Yalma. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette date-là? Et c'était notamment une date que vous évoquez dans le spectacle, que la narratrice évoque?
Oui, parce que après la Seconde Guerre mondiale, enfin à la fin, donc les Juifs reprennent leur le décret Crémieux, leur citoyenneté française, tout ça. Les choses ont l'air de s'apaiser. Il y a beaucoup d'Algériens qui se sont battus contre les Allemands, en France notamment. Et donc finalement, le 8 mai 1945, en Algérie aussi, c'est la fête de la libération. C'est l'armistice. Comme en France, il y a des manifestations pacifiques qui se déroulent dans la plupart des villes d'Algérie. Et sauf que à Sétif et à Guelma, enfin, il y a un événement qui va vraiment bousculer les rapports franco-algériens à ce moment-là, c'est les massacres de Sétif et de Guelma. Et je trouve que c'est important, quand on a l'anniversaire du 8 mai 45 en France, donc cette victoire contre les nazis, de pas oublier non plus cette mémoire des massacres que la France, encore une fois, donc encore l'armée, a pu faire en Algérie ce même jour d'anniversaire. Et là, si vous voulez bien, j'ai un passage que je peux vous lire, oui, qui sera beaucoup plus
parlant
que moi. Le 8 mai 1945, jour de l'armistice, dans la plupart des villes d'Algérie, des cortèges d'Algériens musulmans défilent pacifiquement avec des banderoles. Abat le fascisme, abat le colonialisme. Mais à Sétif, la police tire sur les manifestants. Ces derniers alors ripostent, en s'attaquant aux policiers et aux Européens. On relève alors 103 tués et 110 blessés parmi les Européens. Les autorités organisent alors une véritable guerre de représailles. Elle tourne au massacre. Pendant plusieurs jours, on fusille, on ratisse, on exécute des populations civiles et les villages sont bombardés par l'aviation. Les sources françaises font état de 15 à 20 000 morts. Les nationalistes algériens avanceront le chiffre de 45 000 morts. Le 27 juin 1945, à Alger, se réunissent des personnalités juives et musulmanes pour lancer une souscription aux victimes. De son côté, le professeur Aboulker, celui qui avait organisé le débarquement américain de 1942, publie dans la presse « Les Arabes ne sont pour les Européens d'Algérie, nos frères musulmans, causeurs de guerre. Et puis ils redeviennent des sales bicots dès la victoire. Nous demandons la libération des musulmans internés. Nous dénonçons le racisme, cette crise d'arabophobie aiguë là qui déferle sur l'Algérie. Et nous conseillons de voter l'amnistie avant d'avoir définitivement perdu la tête. » Le sang était encore frais sur les montagnes de Cassino et sur les plages de Normandie. Les mêmes tirailleurs, revenus des champs de bataille, au son des cloches chrétiennes pour fêter la victoire du monde civilisé, rentrent chez eux. Ils retrouvent leurs douars en ruine, leurs épouses violées, leurs frères en prison. Ils verront des charniers pourrissants au soleil de mai. On peut se demander si la guerre d'Algérie n'a pas commencé là, à Sétif, en 1945.
Merci Virginie Hémon pour cet extrait qui est complètement en direct et pas enregistré. Les textes sont étalés sur la table. Et surtout de voir comment vous arrivez à moduler votre voix entre les interviews et le moment où vous incarnez ce personnage de la narratrice. On va d'ailleurs pouvoir écouter d'autres personnages durant cette émission. Alors, comment est-ce que vous avez adapté le livre de Benjamin Stora pour évoquer donc toute cette histoire des trois exils? Qu'est-ce que vous avez gardé? Comment s'est fait votre travail autour de l'ouvrage?
Alors, on a suivi d'abord ces trois exils, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le livre de Benjamin Stora, ce qui est intéressant par rapport à d'autres livres d'histoire, on va dire, enfin, ce qui est intéressant surtout en plus quand on veut faire du théâtre avec, c'est qu'il va mêler complètement l'histoire personnelle à l'histoire collective. C'est-à-dire qu'il va partir de sa mémoire, lui, parce que Benjamin Stora, il est de Constantine, il a dû fuir l'Algérie avec ses parents en 62. Et du coup, il interroge cette mémoire affective d'enfant. Et petit à petit, son travail d'historien va se retourner vers le passé pour comprendre comment on en est arrivé, comment sa famille et d'autres en sont arrivés à devoir fuir et, pourquoi ces blessures persistent encore aujourd'hui dans de nombreuses familles. Et du coup, on est parti on est parti en fait d'un petit garçon, donc de Benjamin Stora, mais enfant, qui vit. On démarre le spectacle avec cet enfant qui vit l'exil, donc qui doit fuir, qui comprend absolument rien à ce qui se passe, qui a peur et qui va se retourner à un moment donné sur le passé via une photo. Et là, il arrive en arrière et on va mettre en place une photo de famille. Il va être témoin d'une photo de famille à un moment où il n'est pas né. La photo de la famille de Benjamin Stora. Donc en fait, quand l'enfant se retourne, on est en 1914 et on a une famille en fait qui se regroupe pour prendre une photo pour partir à un mariage. Et donc ils sont tous endimanchés, tous trop beaux. Et là, on va dévoiler qu'ils ne sont pas tous habillés pareil, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont porter le costume ottoman, comme le grand-père et la grand-mère, et d'autres qui vont être habillés en costume français. Donc il y a deux mondes là, qui sont ensemble, et qui en même temps, il y a deux univers un peu séparés. Et d'où ça vient? Du décret Crémieux, et là on va suivre le fil des exils, des différents exils, pour revenir en fait à la fin, forcément en 1962 avec l'indépendance algérienne, et de nouveau cet exil qu'on a pu vivre au début avec l'enfant, mais cet exil qui va être vécu cette fois du point de vue de la maman, de comment elle a dû s'adapter du jour au lendemain à ce nouveau pays.
Et Benjamin Stora vous a accompagné durant tout ce travail d'adaptation?
Oui, alors pas forcément tout du long, mais déjà on lui a demandé s'il était bien d'accord, il était au contraire hyper flatté, parce qu'il y a des choses qui sont faites par rapport à ses travaux plutôt au cinéma, télé, tout ça, mais théâtre, hop, c'était nouveau. Et oui, il nous a accompagnés, et puis surtout il est venu à la première. Il avait fait un débat d'ailleurs ce jour-là. Apparemment, il avait été justement très touché de cette incarnation de la mère, parce qu'il y avait sa sœur, je me souviens aussi ce jour-là, qui était venue me voir en me disant merci de cet hommage à maman. Voilà, merci pour elle. Voilà.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute justement le début du spectacle, qui est d'abord la vision de l'enfant de l'exil en 62, du troisième exil.
Ok. Le 12 juin 1962. Le 12 juin 1962, mon père, il a dit qu'il faut aller chercher les billets d'avion. Non, il fallait partir, c'était inévitable. Alors d'un coup, ma mère, elle s'est mise à tout briquer dans la maison. Et quand c'était bien propre, mon père, il a fermé la porte à clé et il a mis la clé dans sa poche. Et on est parti. Vous en faites pas les enfants, j'ai un plan. Vous en faites pas les enfants, hein? J'ai un plan. Vous en faites pas les enfants, hein? J'ai un plan. Tout le long du trajet jusqu'à l'aéroport, il nous a répété ça. On a fini par s'inquiéter. Il n'arrivait même pas à hisser les valises sur la plateforme tellement il était fatigué. Et puis, il fallait voir, on était habillés, mais comme pas possible. Les bonnets, les blousons, les pulls, tout. En plein été, hein. Une fois arrivé à l'aéroport, on a attendu, je sais pas, mais des heures et des heures. Et puis bon, l'avion a fini par décoller, en pleine nuit. Et alors là, pendant tout le trajet, personne mouffetait. Ma sœur et moi, on mouffetait pas non plus. Et puis, on est arrivé dans l'autre pays. Et là, il y avait des dames avaient des croix rouges comme ça, qui nous ont donné des bonbons. Maman, maman, elle est où la maison? La maison? Bah, elle est en Algérie. Mais maman, maman,
elle est où l'Algérie?
Mais enfin, Benjamin, l'Algérie, elle est derrière nous. Et c'est là, donc, que Benjamin va se, physiquement et symboliquement, théâtralement, hein, se retourner, puisqu'elle lui dit l'Algérie est derrière nous. Il se retourne et là, il rencontre un monsieur. Et ce monsieur, c'est son grand-père. Et son grand-père qui lui dit « T'as rien à faire ici, on est en 1914, tu n'es même pas né. » Bon, et là, il commence à s'énerver après sa femme parce que le photographe, il est trop long. Voilà. Et la photo va se mettre en place avec le photographe qui va détailler tous les membres de la famille.
On dévoile déjà beaucoup de choses sur ce spectacle. Spectacle qui sera au Théâtre de l'Œuvre la semaine prochaine et peut-être à d'autres dates, à d'autres moments, parce que ça fait quand même 10 ans que ce spectacle tourne. 10 ans, c'est ça?
Ben ouais, ouais, je crois. Ouais.
Et que vous jouez dedans. Alors,
ah oui.
comment votre jeu a évolué aussi au cours de ces différentes années?
Il évolue. Bah, petit à petit, on a déjà, au niveau même du montage, petit à petit, on a ajouté aussi des textes plus poétiques. On a ajouté des textes, par exemple, du poète Kateb Yassine, qui est un grand poète franco-algérien, qui est dramaturge aussi. On a ajouté des textes de lui, textes aussi d'un sociologue, Abdelmalek Sayad. Et puis, on a énormément... Bon, dans ce spectacle, c'est plateau nu. Hein, il y a juste le pupitre, en fait, avec un texte ce pupitre symbolise pour nous, en fait, l'archive, l'histoire, hein, le livre en lui-même. Et après, dans ce plateau nu, nous, on a énormément évolué au fil des années avec une création lumière qui parle beaucoup et qui permet encore plus de créer des univers différents, des décors. Après, le travail se fait bien sûr par le corps, mais aussi, du coup, maintenant, beaucoup avec la lumière. Voilà, pour arriver à faire vivre le contexte historique, c'est-à-dire à le faire éprouver. Voilà. Après, il y a ce rôle que vous disiez de narratrice qui jalonne un peu tout du long, qui essaye de rester sobre, mais voilà, qui n'est pas non plus neutre. Et elle fait apparaître différents personnages qui sont donc tirés d'archives, mais ces personnages, moi, je vais les incarner. Donc, comme tous ceux de la photo, mais aussi les autres personnages historiques, en travaillant avec des accents, par exemple, aussi.
Et il y a combien de personnages? Comment ils sont reliés entre eux? Est-ce qu'ils font tous et toutes partie de la famille de Benjamin Stora?
Ah non, non, ils ne font pas tous partie de la famille de Benjamin Stora. Ils font tous partie de l'histoire franco-algérienne. Donc, il y a des leaders algériens, il y a des élites juives et des élites musulmanes. Pas forcément. Quand je dis élites, c'est les intellectuels, en fait. Hein, donc, c'est là où on a un peu des traces de discours, de voilà.
Et alors, comment vous travaillez avec justement les accents? Il y a un gros travail là-dessus et sur aussi la mise en voix, la posture pour chaque personnage, pour bien les distinguer les uns des autres sur le plateau, puisque vous êtes seuls à tous
ouais,
les
incarner. Ça souvent hein, dans ce spectacle.
Ouais, c'est vrai.
Souvent, enfin que je sois seule ou pas, de toute façon, on travaille à multiplier les personnages. Bah oui, il y a un travail corporel, un travail vocal. Effectivement, donc au niveau des accents, moi je les chope en écoutant les gens, en fait. Donc quand c'est certaines figures historiques comme le leader algérien quand même très connu qui s'appelle Ferhat Abbas, là j'ai pu trouver des enregistrements, des vidéos. Donc c'est quelqu'un qui roulait beaucoup les R, voilà, donc je dis pas que je parle exactement comme lui, mais d'ailleurs Benjamin Stora, une fois à la première, il m'avait fait une réflexion en me disant non mais l'accent de Ferhat Abbas c'est pas ça du tout, hein, il faut qu'il roule les R et tout ça, et en fait je m'étais mise à bosser pas mal là-dessus, et oui, Ferhat Abbas c'est les juifs sont français. Et
il le demeure. Et ce n'est que justice. Il serait intolérable que certains néo-français veuillent faire la guerre chez nous et contre nous. Voilà.
Yeah. Et ça, c'est en voyant du coup les vidéos que vous en appreniez.
Mmh. Après, je m'imprègne aussi de différents accents. Bon, il se trouve aussi qu'on a joué en Algérie quelques fois, pas que cette pièce-là. Et du coup, on a été invité par des Algériens à Béjaïa. Et ils avaient tous, enfin beaucoup avaient des accents différents, des manières. Ils parlaient tous français, hein, mais avec des accents différents. Et du coup, je me suis pas mal aidée de ça. Alors, sachant que moi, de toute façon, dans la vie de tous les jours, avec mes amis, les voisins, tout ça, en habitant à Marseille, je peux choper aussi des accents et des manières, en tout cas, de parler et de s'exprimer. Parce que moi, c'est un peu ce qui me passionne aussi dans la création théâtrale et dans la création de personnages. C'est toute cette richesse identitaire, en fait, de chaque personne par rapport à sa personnalité, par rapport au quartier d'où il vient. On le voit même avec l'accent marseillais. Il n'y a pas le même accent au Panier qu'à Castellane. Voilà. Et pourtant, il y a l'accent marseillais partout. Mais suivant sa classe sociale, suivant... Et je trouve que la manière de parler, de prendre la parole, en dit beaucoup sur le personnage. Et donc, j'essaye de trouver, par rapport à ce que je lis des archives, des témoignages, j'essaye d'imaginer leur manière de parler, aussi par rapport à leur rang, hein, si c'est des religieux, si c'est autre chose, plutôt des politiques ou plutôt des auteurs, suivant les personnages. Et voilà, en fait.
Vous évoquiez aussi, du coup, votre passage de la pièce en Algérie, en 2014, pour les Trois Exils. Donc, vous êtes allé sur place. En quoi ces moments-là aussi, ça a été des moments forts dans la tournée de ce spectacle ?
Alors là, c'était un moment fort. Ouais, on a été invité donc au Théâtre Régional de Béjaïa. Beaucoup de gens connaissent cette ville plutôt sous le nom de Bougie. C'est une ville de Kabylie. Et donc, on a joué effectivement les Trois Exils d'Algérie là-bas. C'était lors d'un grand colloque sur l'insurrection algérienne, justement, dont on s'est beaucoup servi après pour justement la création de Fatma et Louise. Mais c'était parti un peu de là, déjà. Et en fait, lors de ce colloque, il y avait donc des invités. Il y avait Tassadit Yassine, mais il y avait aussi Benjamin Stora, Françoise Vergès. Il y avait, voilà. Et il se trouve que on est dans un contexte où le livre de Benjamin Stora, donc le titre entier, c'est Les Trois Exils Juifs d'Algérie. Le titre du livre est interdit d'édition en Algérie. Donc, il y avait un peu un stress, et je me souviens du stress de Benjamin, notamment, de présenter cette pièce et ce texte en public, parce que c'était quand même interdit. Il y a quand même un état policier, un état militaire en Algérie qui est fort, enfin, qui est assez hard, quoi. Et il se trouve que cette pièce, non seulement elle a fait le plein, mais en plus, il y a eu un vrai engouement, et voire même, j'ai presque envie de dire un soulagement d'entendre cette histoire, mais plus dans le sens où, pour les Algériens, là c'était beaucoup la plupart des Kabyles, hein, ça faisait du bien, c'est pour ça que je parle de soulagement, ça faisait du bien d'entendre, de reparler de... cette union, en fait, entre les gens, parce que, si vous voulez, que ces exils qu'ont vécu les Juifs et les Pieds Noirs, comme une injustice, et comme... donc, on sait que pour les Juifs et les Pieds Noirs, ça a été un arrachement. Hein, on parle souvent, ils en parlent comme ça, cet arrachement de leur terre natale, de leur maison, de leur culture aussi, parce que, voilà... Eh bien, il faut savoir que pour les Algériens aussi, le fait qu'ils soient partis, il y a un arrachement. On les a amputés d'une partie de leur identité. Et je ne savais pas que c'était aussi fort aussi de ce côté-là. Et en fait, oui, il y a eu beaucoup de discussions après par rapport, oui, des fois on entend des phrases, les colons, faut pas voir. Je veux dire, c'était une minorité des colons qui étaient des riches propriétaires. Sinon, les colons, à la base, ce qu'on a appelé ensuite les pieds noirs, c'était, c'est vraiment de la colonisation de peuplement qui s'est faite. Donc, on envoyait les pauvres, les bagnards, et puis on les envoyait en tant que Français, alors que c'était des Italiens, des Espagnols, des Maltais. Enfin, vraiment, il y a un truc où cette identité est un peu faussée. Enfin, donc finalement, ils s'en créent une tous ensemble quand même. Et donc, quand en Algérie, on évoque les pieds noirs, ils disent « Mesquine, les colons, ils nous manquent ». Parce que, et des fois, on peut entendre ces phrases-là, parce que c'était leurs voisins. C'était leurs voisins, leurs copains, c'était celui qui venait acheter dans son épicerie, c'était la vie, quoi, en fait.
Oui, des relations s'étaient faites entre eux, quoi.
Ouais, mais très, très fortes, et puis oui.
Et pourquoi l'interdiction du livre de Benjamin Stora, et est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui, cette interdiction?
Oui, ouais, je crois qu'il est toujours pas édité en Algérie, ouais. Bah, parce que les rapports judéo-musulmans sont très tabous. Parce que sont très tabous. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir faire parler et faire jouer son livre. Parce que c'est justement un livre qui montre qu'au contraire, les rapports judéo-musulmans allait bien pendant très longtemps, jusqu'à au moins la Deuxième Guerre mondiale, et voire même après, où finalement, malgré les trahisons des gouvernements français, et malgré les tortures, malgré les trahisons dans le sens où, si vous voulez, le décret Crémieux, quand même, qui naturalise les Juifs d'Algérie, il était peu près entendu qu'après il y aurait aussi la naturalisation pour les musulmans, mais ça n'est jamais arrivé. Mais il n'y a jamais eu de musulmans qui ont été revanchards par rapport à ça. Ils voulaient pas une égalité par le bas. Ils voulaient qu'ils étaient très contents que les juifs reprennent leur citoyenneté française après à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils auraient bien aimé l'avoir eux aussi, puisque finalement, on est français ou on n'est pas français. Je veux dire, il y a un moment où
il faut trancher.
Donc, finalement, la France, non, en fait, elle veut des blancs. Non, parce que finalement, c'est ça, hein, parce que les Maltais, les Italiens, les Espagnols qui sont venus peupler pour la France sont devenus français. Les Juifs sont devenus français et les musulmans, non. Donc il y a un problème quand même.
Et vous avez un autre extrait avec vous, et cette fois c'est la mère, justement la vision de la mère, donc de cette mère qui a vécu en Algérie et qui en 62 arrive en France, et ça pourrait aussi montrer un peu les sentiments de ce peuple juif d'Algérie qui va en France, comment aussi elle se sentait bien là-bas, comment c'était possible cette histoire judéo-berbère et les liens entre juifs et musulmans.
Ouais, ils y ont tous finalement un petit peu cru à cette possibilité de mixité franco-algérienne, même si elle était pas juste à la base, hein, parce que c'est quand même une colonisation, donc quelque chose de violent. Mais pourquoi pas concilier les choses? Finalement, ça n'a pas été possible. Il y a eu les gens donc se retrouvent exilés. Et effectivement, la vision de la mère de Marthe Stora, donc la mère de Benjamin, peut parler à pas mal de juifs qui ont été exilés, mais aussi au pied noir, en fait. Ils ont vécu le même exil, la même histoire au même moment. Et en fait, dans la pièce, elle interroge, on est à un moment où toute catégorie sociale et politique confondue, les juifs d'Algérie et les pieds noirs et les harkis se trouvent rejetés sur la rive européenne de la Méditerranée. à la veille de la proclamation de la République algérienne, le 3 juillet 1962. 1962. Qui c'est qui dit 1962 ? Si, j'ai entendu 1962. Vous savez ce que c'est 1962 ? Non, je vais vous dire moi ce que c'est 1962. 1962, c'est une valise ou le cercueil, un bagage et un avion militaire. On a tout laissé. Quand on est arrivé en France, on a d'abord vécu à 30, dans un petit appartement à Montreuil. Heureusement, après mon mari, il a rencontré un ami qui l'avait aidé à Constantine et il nous a prêté un petit deux pièces. Sans vouloir le vexer, un vrai taudis, une ancienne forge. On a vécu là dans 2 ans, mon mari et moi avec nos 2 enfants. Une fois arrivé à Paris, je me suis mise au travail, moi, chez Peugeot. Je connaissais rien à ce travail. C'était dur, c'était très dur. Mais pour les Français, on leur enlevait le travail. Moi, je prenais le carton, je posais sur le chariot, je mettais l'étiquette et ça partait. Mais pour les Français, on leur enlevait le travail. Je prenais le carton, je posais sur le chariot et ça partait. Les Français, on leur enlevait le travail ? Je prenais le carton, je posais sur le chariot et ça partait. Les Français, on leur enlevait le travail. Hein? Je prenais le carton, je posais sur le chariot et ça partait. Alors, les Français, on leur enlevait le travail ? Et je vous fais pas la toute fin.
Merci, on en garde un peu pour le moment de la représentation. Merci beaucoup pour ce 3e extrait en direct dans le studio marseillais. Et merci aussi Virginie Aymon d'être venue nous parler de cette pièce plus en détail et de tous ces faits historiques à avoir en tête quand même, c'est important, encore de nos jours. Donc je rappelle...
Surtout de nos jours.
Surtout de nos jours. Et je rappelle que vous pouvez aller voir Les 3 exils d'Algérie, une histoire judéo-berbère à Marseille au Théâtre de l'Œuvre le jeudi 5, le vendredi 6 et le samedi 7 mai 2022. Et vous pouvez retrouver aussi toutes les informations sur votre site manifesterien.com et réserver vos places depuis ce site.